France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Emmanuel Macron devant les maires, réunis en congrès pour annoncer notamment une refonte profonde de la fiscalité locale. Analyse et précision de Stéphane Robert. L'avertissement lancé par la Commission européenne à la France sur ses déficits publics, bien que ces derniers repasseront dès cette année sous la barre des 3% du PIB. Explication de Marie Viennot. En Allemagne, le chef du SPD reçu tout à l'heure par le président Frank-Walter Steinmeier. Et la pression s'accroît donc sur Martin Schulz pour qu'il accepte de participer à une nouvelle grande coalition avec les conservateurs. Le chef de l'État qualifiait hier de crime contre l'humanité les faits d'esclavage en Libye. Un collectif accuse aujourd'hui l'Union européenne d'être complice de ces crimes. Commentaire de Marie-Pierre Véraud. Et puis cette étude de Terra Nova qui propose de diviser par deux notre consommation de chair animale dans les deux ou trois décennies qui viennent. Compte rendu de Véronique Rebérotte, l'invitée de la séquence interview, Florence Portelli, maire de Taverny dans le Val-d'Oise et candidate à la présidence de Les Républicains dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Jesver.
Péruvien et espagnol, retour aujourd'hui sur la crise catalane avec le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa qui sera notre invité à partir de 12h55, Antoine.
Emmanuel Macron présentera donc tout à l'heure devant les maires qui sont réunis en congrès ses projets pour les collectivités territoriales pour annoncer notamment une refonte assez profonde de la fiscalité locale. Confirmation donc que la taxe d'habitation doit être supprimée en 3 ans pour 80% des ménages et elle devrait être compensée par un dégrèvement. C'est donc l'État qui paiera à la place des contribuables, ce qui garantirait, selon l'Élysée, aux collectivités donc la permanence de la compensation. Ce qui change toutefois, Stéphane Robert, c'est la provenance de l'argent qui sera reçu par les collectivités territoriales. Actuellement, ce sont les collectivités qui lèvent directement l'impôt. Et dorénavant, tout va venir de l'État.
Oui, c'est pour ça qu'un certain nombre de maires parlent et craignent une recentralisation. Parce que l'idée, c'est quoi? Vous l'avez dit, l'idée, c'est dans un premier temps que ce ne seront plus les citoyens, les contribuables qui paieront cette taxe qui finance les communes, mais l'État qui la paiera à leur place. C'est le processus de dégrèvement, de compensation à l'euro présenté par le gouvernement. Alors ça marche, dans un premier temps. La taxe d'habitation est toujours émise pour chaque foyer fiscal et pendant 3 ans, elle sera payée par l'État. D'abord 1/3 la première année, 2/3 la deuxième année, 3/3 la troisième année. Mais tout ça n'est qu'une phase transitoire puisqu'il s'agit dans le même temps d'engager, vous l'avez dit, une réforme profonde de la fiscalité locale, ce que confirmera vraisemblablement le président cet après-midi. Et ça pourrait aller extrêmement vite, nous disait-on hier du côté de l'Élysée. Un comité de réflexion est déjà en place, il doit rendre ses conclusions au printemps prochain. Et potentiellement, on pourrait avoir une mise en œuvre de cette réforme dès le budget 2018. Et les pistes sur lesquelles 2018 ou 2019, et les pistes sur lesquelles planche ce comité de réflexion, c'est que l'État redistribuerait une partie de l'impôt qu'il prélève auprès des citoyens. Voyons bien la logique qui est enclenchée là. L'idée est de supprimer les taxes spécifiques pour les collectivités dont les taux sont fixés par les collectivités en fonction des besoins. On leur retire leur marge de manœuvre et il y a donc bel et bien à l'œuvre une reprise en main de l'État central pour limiter, pour diminuer même la dépense publique.
Stéphane Robert, merci pour ces explications. À noter parmi les réactions ce matin, celle du président de la région Normandie, nouveau président de région de France, Hervé Morin, qui parle d'un culte de la personnalité autour d'Emmanuel Macron, lequel pourtant ne sait pas de quoi il parle. Je le cite, quand il s'adresse aux élus locaux, il n'a jamais été maire et vous explique qu'il va vous supprimer la recette fiscale. Donc, poursuit Monsieur Morin, il supprime le lien de responsabilité qui doit exister entre l'élu local d'un côté et le citoyen de l'autre. On salue l'invité de la séquence interview, Florence Portelli, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes candidate, je le disais, à la présidence de votre parti, Les Républicains, et maire de Taverny, dans le Val-d'Oise. Et donc, c'est en tant qu'élu local sur ce sujet que je vous demanderai de quel œil vous voyez cette réforme.
Très mauvais. Sincèrement, pas au nom de la petite politique politicienne, parce que je suis d'un autre bord politique. Ce matin, j'étais au bureau de l'AMF où j'ai été élue avec François Baroin et nous étions des maires de plusieurs bords politiques à être très inquiets sur cette réforme, parce que déjà, une taxe compensée, c'est rarement le cas. Ça allait au départ, puis après, c'est rapidement une mémoriam, pour être honnête. Et puis surtout, il y a un moment, qui va payer? Parce que là, on dit l'État va payer la place du contribuable. Mais il y a un moment, comment l'État lui-même va trouver cet argent alors que la Commission européenne lui met la pression pour faire encore plus d'économies? Donc, à un moment, c'est pas possible. Donc ça, c'est très précipité. À mon avis, ça a été une promesse électorale séduisante, mais qui risque d'être moyen terme assez catastrophique pour les contribuables, parce que les maires, pour trouver une manne, sachant qu'au bout d'un moment la source va se tarir, ils vont aller taper chez les propriétaires et sur la taxe foncière. On est déjà exsangue.
Mais alors, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ce soit l'État qui tiendrait la bourse, ça vous gêne, ça aussi?
Bien sûr, parce qu'il y a un principe constitutionnel.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un principe de centralisation qui est à l'œuvre?
Il y a un principe constitutionnel, déjà, qui est celui de l'autonomie des collectivités territoriales. Et là, il est mis à mal, et je pense d'ailleurs que cette réforme est inconstitutionnelle.
Diriez-vous qu'il y a une politique centralisatrice globalement dans le gouvernement actuel?
Il y a à la fois une volonté de recentrer le pouvoir entre les mains d'Emmanuel Macron et puis une politique qui est prônée par Bercy. La suppression de la taxe d'habitation, c'est une vieille lubie de Bercy qui avait déjà été proposée à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, et Dieu merci, ils avaient dit non. Donc c'est un gouvernement qui est aux mains de Bercy, moi je le dis vraiment haut et fort, et je trouve ça bien dommage parce que les collectivités locales, c'est le vrai visage de la France.
Voilà, on reparle avec vous, Florence Portelli, tout à l'heure de la politique et notamment de cette élection à la tête des Républicains pour laquelle vous êtes candidat. Il faudra encore supporter l'attente. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a affirmé ce matin que le remaniement gouvernemental ne serait annoncé que dans la journée, donc toujours pas à l'heure qu'il est. Il indiquait qu'il pourrait y avoir deux secrétaires d'État qui arrivent, et parmi les noms potentiels des nouveaux entrants, donc, se trouve le nom du député socialiste de l'Ardèche, Olivier Dussopt. Voilà, c'est tout ce que l'on sait pour le moment. Une question sans doute aussi politique qu'économique et financière. Comment peut-on expliquer l'avertissement qui a été lancé hier par la Commission européenne à la France sur ses déficits publics, alors que ces derniers, ces déficits, devraient repasser dès cette année sous la barre des 3% du PIB, fameux critère de Maastricht? On va poser la question donc à Marie Viennot. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le commissaire européen Pierre Moscovici donnait quand même une piste hier. Il disait qu'en Europe, on ne parle plus du tout des 3% maintenant, puisque la moyenne des déficits a été ramenée dans la zone euro à 1,1% et qu'il faut maintenant se situer, alors je cite son expression, il faut se situer dans le bras préventif du pacte de stabilité et de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant un niveau zéro, finalement, de déficit?
Alors 0% n'est pas un nouveau critère, mais cela peut être un objectif vers lequel tendre, notamment pour la France. Alors ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que 3% de déficit public rapporté au PIB, au produit intérieur brut, c'est censé être un plafond. Être en dessous, c'est se garder une marge au cas où il arrive quelque chose, une crise nationale ou international, au cas où il y ait soudainement le besoin de financer les banques avec des capitaux publics comme en 2008, ou bien où il y ait besoin de financer un acteur public comme l'État français l'a fait l'an dernier avec EDF et Areva. Être en dessous de 3%, cela permet donc d'envisager ces dépenses exceptionnelles sans passer au-dessus. Cela permet aussi d'envisager ce qu'on appelle des politiques contracycliques qui vont à l'encontre de la conjoncture. Si la croissance ralentit, l'État peut dépenser plus, mais sans passer au-dessus des 3%. L'avantage pour un pays, c'est qu'il peut alors être dans ce que la Commission appelle le bras préventif, ce qui lui permet de bénéficier d'une plus grande mansuétude. Si on est en préventif, des dépenses liées à une contrainte exceptionnelle, la Commission cite l'accueil des immigrés ou des dépenses liées au terrorisme, ces dépenses peuvent être sorties du calcul. Si on est en correctif, comme on l'est en ce moment, eh bien, on ne peut pas avoir ces marges de flexibilité. Donc, être en préventif, cela permet de bénéficier des marges de flexibilité du pacte de croissance. Alors, Emmanuel Macron, lui, veut croire que cela lui donnera plus de poids pour changer l'Europe. Mais il y a un autre ratio qui fait mal à la France. C'est le ratio dette sur PIB. Et là, la France est bien au-delà des 60% jugés convenables. Elle taquine les 100%. Or, pour redescendre, le moyen le plus rapide, c'est de faire comme l'Allemagne. Donc, des excédents et non pas des déficits. Et là, on ne parle plus donc de 0% de déficit public sur PIB, mais bien mieux, des excédents.
Des excédents. Merci beaucoup, Marie Viennot. Effectivement, on ne voit pas trop où ça pourrait s'arrêter. Florence Portelli, peut-être un mot là-dessus.
Oui,
parce qu'on ne va pas forcément parler d'Europe, mais dans votre projet. Oui, non, tout à l'heure dans l'interview.
Ah, non, pas
mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on voyait Emmanuel Macron en prise avec des déficits, la volonté de les réduire. Et puis on voit que finalement, ça ne convient pas non plus. Sur l'Europe, vous avez un positionnement bien particulier?
Ce que je trouve incroyable, ce n'est pas évidemment de réduire les déficits. Ce serait malhonnête en plus de la part de. J'étais porte-parole de François Fillon, donc ce serait paradoxal. En revanche, que les diktats soient dictés justement par une commission composée de technos, alors que je rappelle que le pouvoir politique est quand même au Conseil européen, c'est là où sont où est le pouvoir politique et où sont les États. Sinon,
enfin, on se met du Parlement européen. À cette déclaration, vous dites toujours que c'est les politiques qui décident ça, qui décident que c'est la commission qui.
Oui, mais justement, les politiques ne sont plus aux manettes. Ça fait longtemps qu'ils sont plus au Mali. D'ailleurs, si vous prenez les États-Unis, le Canada ou d'autres pays, quand ils négocient des grands traités ou quand ils parlent de politique d'harmonisation sur tel ou tel sujet, c'est les politiques qui sont en première ligne. Et là, où est le politique et où sont les peuples? Et c'est un des problèmes de l'Europe, justement.
Alors, ça veut dire quoi dans votre
Je pense que les Républicains n'ont plus de ligne sur l'Europe. Ouais. Ça fait très longtemps qu'ils n'en ont pas. Et une des choses sur lesquelles il va falloir que l'on travaille, sur le fond, c'est justement l'Europe. On a des souverainistes, des fédéralistes, des libéraux, des organismes, des
partis, sont là tout chez vous. Séguiniste.
Moi, je suis euro-réaliste. Donc, je prends ce qu'il y a aujourd'hui. Mais en revanche, je suis contre l'élargissement et je suis contre le fait que les technos continuent à être aux manettes.
En Allemagne, après l'échec des discussions en vue d'établir une coalition qui rassemblerait la CDU-CSU, les libéraux et les verts, les appels se multiplient maintenant pour la reconduction de l'alliance gouvernementale entre les conservateurs et les sociaux-démocrates. Le numéro 1 du parti social-démocrate, le SPD, Martin Schulz, va être reçu tout à l'heure par le président allemand Frans-Walter Steinmeier. Monsieur Schulz a pourtant rappelé récemment à plusieurs reprises son opposition à cette nouvelle grande coalition avec les conservateurs. Après les révélations de CNN sur les exactions commises contre les migrants en Libye, Emmanuel Macron qualifiait hier la vente de migrants africains comme esclaves dans ce pays de crime contre l'humanité. Après une rencontre à l'Élysée avec le président de la Guinée et de l'Union africaine Alpha Condé, il déclarait qu'il fallait aller beaucoup plus loin pour démanteler tous ces réseaux de trafiquants. Mais ce matin sur France Info, Claude Issiard, qui appartient à un collectif contre l'esclavage en Libye, estimait que les responsabilités étaient partagées à la question qui lui était posée.
Les Libyens déjà, mais pas seulement. Pas seulement parce que là en ce moment, je travaille avec un jeune qui a été esclave, du Cameroun, qui a réussi à échapper à cela. Sa sœur est toujours détenue là-bas, elle était en prison, elle a été rachetée par un homme et c'est une esclave sexuelle maintenant. Et lui me racontait par exemple qu'à Tripoli, il y a des Nigérians qui sont armés et qui rachètent des migrants qui ont été incarcérés pour les revendre après. Alors c'est où il arrive à obtenir de l'argent de la part des familles, ou alors il les revend à des marchands d'esclaves qui eux-mêmes vont les revendre après. Donc ça veut dire que tout ça... Et puis, il y a la complicité de l'Union européenne. Lorsque le 3 février dernier, l'Union européenne signe un accord avec la Libye, avec le Niger et d'autres pays pour enrayer ce flux migratoire, en réalité pour stopper les migrants, pour qu'ils soient dans un cul-de-sac, parce que c'est bien ce qu'il se passe, eh bien, vous vous rendez complice, et pour le coup, on peut le dire très clairement, de crimes contre l'humanité, puisque vous savez ce qui se passe en Libye. Vous savez très bien que les populations afro d'Afrique subsaharienne sont maltraitées. Vous savez très bien qu'en faisant cela, vous allez donner un permis de tuer. Et c'est bien ce qui se passe. Donc, les responsabilités sont partagées. Et puis, il y a aussi les chefs d'État africains.
Claude Issiard, donc avec Bruce Toussaint ce matin sur France Info. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut vraiment parler de complicité de l'Europe en général et peut-être de la France en particulier dans cette traite d'esclaves en Libye?
Oui, et ce n'est pas du militantisme que de le dire. Il y a une certaine hypocrisie ou amnésie à s'offusquer aujourd'hui de la situation épouvantable que vivent les migrants en Libye, à convoquer d'urgence une réunion du Conseil de sécurité, alors que la France, comme les autres États européens, connaissait parfaitement la situation. Début septembre encore, la présidente internationale de Médecins sans frontières avait mis en garde l'Europe contre le risque de complicité de crimes dans lequel l'a placé sa politique. Mais cela fait bien plus longtemps encore que les ONG documentent cet enfer libyen. Les rackets, les viols, les tortures, les meurtres, les enlèvements contre rançon, le trafic humain, voire le trafic d'organes. La presse s'en fait régulièrement l'écho dans l'indifférence totale des dirigeants. Il y a à peine 2 mois encore, la France, par la voix d'Emmanuel Macron, proposait que des hotspots soient installés en Libye pour faire le tri entre les bons migrants éligibles à l'asile et les mauvais, les migrants économiques. L'idée étant de tarir les traversées à n'importe quel prix. D'ailleurs, c'est toujours ce qui a guidé la politique des États européens en matière de migration. Et c'est le seul volet sur lequel ils soient jamais tombés d'accord. La répression, derniers actes sur la Libye, plusieurs dizaines de millions d'euros pour les gardes-côtes, alors que l'Europe connaît leur rôle dans le trafic de migrants. L'interdiction des bateaux des ONG qui secourent les migrants en mer au large des côtes libyennes. L'augmentation des moyens de Frontex pour établir une barrière en Méditerranée et renvoyer les migrants vers la Libye, c'est-à-dire vers cet enfer. Alors l'Europe est évidemment co-responsable de ce qu'Emmanuel Macron qualifie de crime contre l'humanité. Sa politique de fermeture et de collaboration avec la Libye pourrait même avoir aggravé la situation des migrants coincés dans ce pays. L'indignation de Paris aujourd'hui, bien sûr, après ce documentaire de CNN est salutaire. Elle rappelle d'ailleurs l'émotion planétaire lors de la publication de la photo de ce petit enfant syrien échoué sur une plage turque. On ne compte plus les déclarations enflammées des dirigeants à l'époque.
Quelques mois plus tard, l'Union européenne et la Turquie convenaient d'un accord qui ferme la route vers la Grèce. Résultat aujourd'hui, résultat de cet accord, des milliers de migrants sont abandonnés sur les îles grecques, dans les hotspots, dans une situation dramatique. Les ONG et l'UHCR ont lancé des appels. Il faudra sans doute attendre le prochain documentaire de CNN pour s'en préoccuper. Mais quand on parle d'Union européenne, il faut comprendre les États, dont la France, des États qui ont refusé les appels de la Commission européenne à des quotas d'accueil, des États qui ne peuvent plus cacher le décalage entre leurs discours et leurs actes. Si l'on prend la France, par exemple, encore une fois, elle laisse aujourd'hui des mineurs isolés se faire reconduire hors de ses frontières, abandonnés à leur sort. Ce n'est pas en Libye, c'est chez nous, en France.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. Pendant que vous parliez, le chef de l'État est actuellement au musée du Quai Branly et il parle du multiculturalisme. Il déclare s'inspirer dans son action du multilatéralisme défendu par l'ancien président Chirac. Il remettait le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. Il affirme que l'ancien président avait une conviction profonde, c'est que la France n'est grande que si elle est ouverte au monde. La France s'est toujours enorgueillie de cette ouverture au monde, a encore dit le chef de l'État.
Midi 45 sur France Culture. Quand Terra Nova se penche sur les impératifs sanitaires, environnementaux et économiques, dans un document publié ce matin, le groupe de réflexion propose la généralisation de l'option du repas alternatif végétarien et d'un jour végétarien par semaine dans la restauration scolaire.
Et l'objectif final, c'est de proposer, dans les deux ou trois décennies, affirme Terra Nova, de diviser par deux notre consommation de chair animale, donc de viande. Véronique Reberotte, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que le regard finalement de Terra Nova, qui n'est pas forcément, non, c'est pas forcément la spécialité, apporte de plus que les associations strictement écologistes?
Justement, Terra Nova apporte sa contribution à un débat, on va dire, un sujet de société, de politique aussi, internationale majeure, sans être pour autant des défenseurs de la cause animale ou des militants écologistes végétariens engagés, voire radicalisés, et ce, en plein débat quand même, en plein état généraux de l'alimentation qui s'achève donc à la fin du mois. Alors comme pour le climat, il y a urgence, dit le rapport de Terra Nova, se détourner, alors on a un petit peu le temps, mais il faut commencer, des produits carnés à la fois pour des raisons sanitaires et écologiques. Les chiffres sont édifiants. Il y a ceux dans le monde qui ne consommaient pas de viande ou si peu il y a quelques années, qui explosent aujourd'hui leur consommation. C'est le cas de l'Asie. 9 millions de tonnes de viande consommées en 1961, 131 millions de tonnes en 2011. Une croissance spectaculaire que l'on constate un petit peu partout dans le monde, accompagnée de scandales sanitaires, des conditions industrielles d'élevage ou d'abattage un peu catastrophiques. Et la situation ne devrait pas s'arranger puisqu'on estime que la production mondiale de viande pourrait augmenter de 75% d'ici 2050 pour être au menu, cette viande de presque 10 milliards d'humains sur Terre, donc en 2050. Or, la viande, les élevages, que ce soit de porc, de poulet, de bœuf, ce n'est pas bon pour la planète. L'élevage mobilise un tiers des terres cultivables mondiales, contribue à la déforestation, génère 15% des émissions de gaz à effet de serre, avec le méthane, entraîne des pollutions aussi aux nitrates et autres, si bien d'ailleurs qu'un mouvement de déconsommation quand même est déjà amorcé depuis une bonne quinzaine d'années dans nos pays. Il suffit de pousser un peu plus loin la conversion à un régime alimentaire, dit simplement moins carné. C'est ni absurde ni inaccessible, dit Terra Nova. Une petite révolution, bon pour la planète et la santé. Trop de viande, ça veut dire des cancers en plus. Terra Nova propose donc d'aller vers plus de protéines végétales et de cesser de discriminer, comme on le fait souvent, le menu végétarien. Une transition alimentaire à mener dès les cantines scolaires, vous l'avez dit. Moins de viande ne signifie pas forcément punition et assiette tristoune.
Oui, quand même pas manger les insectes non plus.
Ah ça, c'est autre chose.
Florence Portelli, est-ce que vous êtes prête à baisser votre consommation de viande, qui est peut-être pas énorme,
je tiens beaucoup à mon autre côte saignante, quitte à me fâcher avec beaucoup de gens. En revanche, ce qui est quand même bien dans ce rapport, c'est que c'est pas justement trop caricatural. Alors le menu végétarien, ça pose d'autres problèmes. J'ai des demandes répétées dans ma mairie de faire des menus végétariens pour des raisons communautaristes. Donc ça pose aussi ce problème-là. En revanche, il pose quand même des vraies questions, et notamment en matière écologique, parce que c'est vrai que ça produit des gaz à effet de serre et ça provoque des cancers. Donc limiter, pourquoi pas, trop réduire, non, je tiens à mon steak.
Bon, alors vous tenez à votre steak et vous êtes candidate à la présidence.
Ouais, c'est pas vraiment un steak.
Les Républicains. Élection qui va avoir lieu donc les 10 et 17 décembre prochains. Voilà, Laurent Wauquiez parlait ce matin, il disait qu'il allait être probablement réélu, mais que ça ne va pas tuer le débat et tout le monde va, y compris Alain Juppé, trouver sa place.
Pourtant, il a tué le débat,
Laurent. Oui. Voilà, bon, vous avez encore quelques jours, comment vous sentez cette campagne? On a quand même l'impression qu'il y a du mal à déloger le disons, le caractère de favori de Laurent Wauquiez.
Alors, le statut autoproclamé de favori, ça c'est sûr, je ne peux pas lutter contre des apophtegmes définitifs, ça c'est sûr. J'ai connu ça avec François Fillon, on disait que Alain Juppé allait gagner la primaire. Donc ça me laisse beaucoup d'espoir.
Ouais. Et sincèrement, je ne suis pas sûr que l'exemple soit forcément...
Non, mais sur la primaire, en tous les cas, c'était le favori n'a pas fini sur la ligne d'arrivée. Et non, je pense que c'est faux. Sur le terrain, ça prend bien. Il y a de plus en plus de gens derrière nous. J'ai beaucoup de monde à mes réunions, honnêtement. Et j'avais eu 6000 parrainages. Hein. 6000 parrainages en très peu de temps sans les moyens de Laurent Wauquiez.
C'est quoi
on en a peu parlé de mon nombre de parrainages. On a demandé 2300. Les autres concurrents ont demandé de l'aide. Moi, je n'ai pas demandé d'aide. Et j'ai eu deux fois plus de parrainages que Maëlle de Canon.
Le corps électoral, ça fait combien?
Bah écoutez, il y a l'officiel et l'officieux. Ouais. Je pense qu'il y en a 130 000 en réalité et qui seront moins de 100 000 à aller voter.
Comment est-ce qu'on explique
Stéphane
qu'il
Lambert.
Ait eu plus de parrainages? Il en a eu plus de 20 000, lui. Comment vous l'expliquez?
Dit-il, hein, c'est pas contrôlé en fait, le nombre de parrainages. Moi, j'ai envoyé les miens par souci de transparence à un journal. La haute autorité, une fois que vous avez 2300, arrête de compter. Donc, je ne sais pas combien il en a eu. Ce qui est sûr, c'est que il a un statut en effet de favori. Il a les cadres du mouvement qui sont en majorité derrière lui. Parfois très invité à être derrière lui, parfois spontanément. Ça explique aussi beaucoup de choses. Après, dans le secret de l'isoloir, où en appuyant sur le bouton, on verra ce qu'ils font, ce sera peut-être très différent, vous voyez.
Sur le fond, quand même, comment vous allez trouver un espace entre Emmanuel Macron, la droite libérale, et Laurent Wauquiez, la droite conservatrice?
Je suis pas sûre que ce soit la droite conservatrice, honnêtement, Laurent Wauquiez. Déjà, je ne sais pas quelle est sa ligne, honnêtement. Et j'attends toujours ses propositions pour le parti. Je pense qu'entre Emmanuel Macron et en tous les cas l'extrême droite, hein, parce que je ne sais pas que c'est le cas de Laurent Wauquiez, mais de manière globale sur le paysage politique, la droite avait le programme de François Fillon, qui était un programme libéral sur le plan économique et conservateur sur le plan sociétal, mais qu'elle a aussi des sujets qu'elle a largement abandonnés et dont il faut qu'elle s'empare pour reconquérir les classes populaires. Et sans aller sur le terrain du populisme.
Par exemple,
et bien les fractures sociales et territoriales. On en a parlé en 95, après, ça fait pchit. Et la droite n'a jamais su répondre à ces problématiques-là. Et notamment aux problématiques d'ascenseur républicain également. Ce qui fait qu'il y ait des personnes qui vivent dans des territoires dits déclassés de la République, des territoires aussi sans services publics, et là on y a largement contribué, ou des territoires privés de culture, d'éducation, comme dans d'autres territoires, ou des territoires aussi où il y a un fort taux de chômage. C'est une partie des zones rurales, mais c'est aussi une partie de la France périphérique, des Frances périphériques. Et là-dessus, on a un travail à mener important. Puis il y a aussi des sujets sur lesquels on est mauvais. La culture. Quand on parle culture à droite, on ne parle que de patrimoine et d'audiovisuel. Culture, c'est quand même un peu autre chose. C'est aussi l'enseignement artistique. C'est ce qu'on peut faire dès le plus jeune âge pour émanciper un individu. Et puis, c'est l'écologie. On parle un petit peu à travers l'alimentation, mais l'écologie, il peut y avoir une écologie de droite. Et là-dessus, à part Nathalie Kosciusko-Morizet, la droite était très muette.
Stéphane Robert.
Donc, vous avez beaucoup de choses à reconstruire, notamment du côté des militants, vous les rencontrez. Est-ce que vous voyez un avant, un après? Parce que vous avez connu l'avant des fêtes et l'après des fêtes. Est-ce qu'il y a véritablement eu une hémorragie?
Alors, il y a évidemment, on va pas vous dire que ça va bien, hein, ça va mal, mais ça va mal depuis un petit bout de temps. Alors, ils avaient repris du Paul de la Bête avec la primaire, qui a mobilisé beaucoup de gens, mais ça fait très longtemps que les militants sont désabusés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est au pouvoir, on ne fait pas ce pourquoi ils nous ont désignés. Et c'est vrai que d'ailleurs, souvent, on fait campagne sur des thèmes qui ne sont plus abordés par la suite. Il y a beaucoup de mensonges au niveau des campagnes. Et puis, il y a des problématiques importantes pour eux qui ne sont pas réglées par les Républicains, et notamment depuis la création de l'UMP. L'UMP, ça a été une machine électorale. D'ailleurs, au départ, c'était pas Union pour un mouvement populaire, c'était Union pour la majorité présidentielle. C'était un faux parti fabriqué pour battre Jean-Marie Le Pen. Et là, on a additionné tout le monde, on a mélangé tous les courants possibles et imaginables, ce qui fait qu'on était dans une logique électorale. Il fallait faire des consensus, mais on ne savait plus qui on était, quelle était la ligne. Il faut retravailler urgemment sur la ligne en n'étant pas afféodé à des exigences électorales.
Ça vous sert ou ça vous dessert d'avoir été fidèle jusqu'au bout à François Fillon?
Franchement, ça me sert. Ça me sert parce que même des gens qui n'ont pas voté François Fillon à la primaire connaissent qu'au moins, quand il y a une tempête, j'étais encore au gouvernail quand d'autres se défilaient et allaient se planquer.
L'autre adversaire, Maëlle de Calan, lui représente un peu l'aile centriste. Il était juppéiste au départ. Est-ce qu'ils sont encore nombreux, les centristes, au sein de Les Républicains aujourd'hui?
Il y a des centristes au sein des Républicains, mais après, je dirais, ce serait sain de revenir à un centre et une droite. Alors, vous remarquerez que quand vous êtes centriste, vous êtes centriste. Quand vous êtes de droite, il était de bon ton de dire que vous êtes de centre-droit. Je crois qu'il est temps de revenir aux lignes originelles. Et
d'avoir quand il y a un droite, premier ministre qui vient de votre parti.
Oui, mais qui en est parti.
Oui, qui est partie,
du parti, qui s'est auto-exclu et qui est allé d'ailleurs faire campagne contre les nôtres. Donc à partir de là, la
ligne d'accord, ça c'est politique, mais sur le fond, qu'est-ce que vous avez contre ce gouvernement finalement qui fait la politique en gros de François Fillon?
Déjà tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait contre les collectivités locales, je ne suis pas d'accord avec ce que fait ce gouvernement. Ce qu'il fait en matière de fiscalité qui est plutôt néfaste pour les classes moyennes, on n'a pas prôné absolument pas la hausse de la CSG par exemple, et la réforme de la taxe d'habitation encore une fois me paraît être une très mauvaise réforme. Et puis il y a beaucoup de sujets sur lesquels ce gouvernement ne s'exprime pas. Par exemple en matière de laïcité, sur le droit des femmes pas respecté dans certains endroits de la République. Enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels on pourrait revenir, où il est muet, et puis surtout sur sa vision des territoires.
Florence Portelli, merci beaucoup. Merci. Élection donc chez les Républicains. Premier tour le 10 décembre prochain, un temps généralement couvert et doux pour la saison. Il fera cet après-midi de 12 à 21 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.